RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohen.
Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, les Gazaouis entre soulagement et déception après la réouverture du point de passage de Rafah hier. Soulagement de la cinquantaine de malades qui ont pu être évacués vers l'Égypte, mais la désillusion de ceux qui n'étaient pas sur la liste. Reportage grand format à Gaza dès le début de ce journal. La Chine prévient, il n'y a pas de vainqueur dans une guerre commerciale. La réponse de Pékin au nouveau droit de douane imposé par Donald Trump. Le Mexique et le Canada sont aussi dans le viseur du président américain et vous l'entendrez, il ne compte pas se laisser faire. Direction ensuite Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu en RDC, où après l'offensive du M23 à Goma, de plus en plus d'habitants rejoignent les rangs de l'armée. Au sommaire également, il veut aller vite et doter la France d'un budget. François Bayrou annonce qu'il utilisera le 49-3 demain. Et puis du sport et des images qui ont fait le tour du monde à la fin de ce journal. Le chaos de la légende de l'UFC, Israël Adesanya face au français Nassourdine Imavov.
Des dizaines d'ambulances rassemblées devant des portes grillagées et le soulagement des Gazaouis, le point de passage de Rafah a rouvert hier entre l'Égypte et la bande de Gaza.
Cela s'est passé quelques heures après le quatrième échange hier entre Israël et le Hamas. Trois otages libérés contre 182 détenus palestiniens et un égyptien. Autre point de l'accord de trêve, une cinquantaine de malades ont donc pu être pris en charge et emmenés vers le Caire. Notre correspondant à Gaza, Rami Almerari, en a rencontré quelques-uns. Son reportage avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Le bus est prêt à partir. Om Khalil a prié fort pour ce moment. Son fils a 2 ans et souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Elle l'accompagne en Égypte. Mon Dieu, quel soulagement. C'est une merveilleuse surprise. Le petit va enfin pouvoir être soigné. À bord du bus, beaucoup d'enfants atteints de cancer et d'autres pathologies graves, mais aussi des blessés avec de lourdes séquelles comme Ala, survivante d'un bombardement israélien. Je suis très heureuse moi aussi. À l'étranger, ils vont pouvoir me poser des prothèses de bras. Quand je reviendrai, je pourrai enfin porter mon fils. Pour certains, c'est la déception. Le jeune Ahmed était sur la liste pour partir, mais son autorisation vient d'être révoquée. J'ai un éclat dans l'œil, j'ai perdu la vue. J'avais espoir de me faire opérer. On a été autorisé à monter dans le bus, mais au dernier moment, les Israéliens ont refusé d'accorder une autorisation à ma mère pour qu'elle m'accompagne. Et comme je suis mineur, je n'ai pas le droit de partir seul. Mu'taz et sa famille font face au même problème. Mon fils doit aller se faire soigner en Égypte avec sa mère. Mais notre petite dernière, qui a 15 jours, n'a pas eu d'autorisation pour rester avec sa mère. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Un nourrisson doit avoir le feu vert des Israéliens pour être autorisé à rester avec sa mère. Rami Almerari, Gaza. Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Les négociations doivent reprendre demain entre Israël et le Hamas. Il doit être question de la deuxième phase de l'accord de trêve, pas d'arrêt des combats. En revanche, en Cisjordanie occupée, une opération militaire israélienne est en cours pour éliminer des terroristes, dit l'armée. Un peu plus tôt, l'autorité palestinienne annonçait 5 morts à Jénine dans des frappes israéliennes. Et c'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou est attendu à Washington demain lundi. Il doit rencontrer Steve Witt Witkoff, l'émissaire américain pour le Proche-Orient. Entretien prévu aussi avec Donald Trump dans le bureau ovale. Le président américain qui continue, lui, de dérouler son agenda. Dernière décision en date, l'augmentation des droits de douane pour ses principaux partenaires commerciaux. Le républicain a signé le décret hier imposant entre 10 et 25% de taxes en plus pour le Mexique, le Canada et la Chine. Elle pourrait entrer en vigueur dès mardi. Tous réagissent ce matin. La Chine annonce saisir l'Organisation mondiale du commerce et prendre des mesures miroirs. Même chose du côté mexicain. Claudia Sheinbaum, la présidente, parle de mesures tarifaires pour défendre son pays. Au Canada, Justin Trudeau a lui aussi répondu à son voisin. Correspondance à Québec de Pascal Guéricola.
Jus de fruits, chaussures, meubles, vins, équipements sportifs. La liste des biens américains que le Canada va taxer touche une multitude de produits. Une réplique que l'on pourrait qualifier d'œil pour œil, dent pour dent, version commerciale. Et pourtant, tout en annonçant ces mesures de rétorsion, le Premier ministre Justin Trudeau a souligné la profondeur de la relation avec le peuple américain. Un brin lyrique, il a rappelé les nombreuses fois où Canadiens et Américains se sont épaulés au cours de l'histoire. Cependant, le dirigeant estime qu'il n'a pas le choix de riposter. Appelant à l'unité, il demande à ses concitoyens de privilégier les produits canadiens dans leurs achats. Par exemple, le whisky local plutôt que le bourbon américain. Et il invite aussi ses compatriotes à visiter le Canada au lieu de se rendre sur les plages américaines. Difficile de dire jusqu'où ira la guerre commerciale entre les deux pays, au cours des derniers jours, Donald Trump n'a pas daigné répondre aux appels de Justin Trudeau. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Marco Rubio est lui arrivé tout à l'heure au Panama. Le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec le président, José Raúl Mulino. Il va évidemment être question du canal de Panama, ce carrefour maritime sur lequel Donald Trump veut mettre la main. 7h06 en temps universel, plus de 700 morts et 2800 blessés. En RDC, une semaine après le début des combats à Goma, le gouvernement fait le point et confirme les chiffres fournis par l'ONU en se basant sur les personnes enregistrées dans les établissements de santé. Les combats opposent, vous le savez, l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda, le groupe armé dont la menace pèse sur la province du Sud Kivu. Résultat, des milliers de personnes s'enrôlent aux côtés de l'armée. À Bukavu, un vaste mouvement de recrutement de volontaires a même été lancé. Reportage de William Bassimike.
Tête rasée, visage détendu, Christophe, 25 ans, a décidé d'abandonner ses études universitaires pour défendre l'intégrité territoriale de son pays.
Je décide d'intégrer le Wazalendo pour aller battre les ennemis, les études après. C'est la terre qui nous a laissé nos aïeux et on ne peut jamais la laisser tomber.
Ancien démobilisé des FRDC et des groupes armés, mais aussi des nouvelles recrues des 18 ans révolus, nombreux font part de leur indignation après avoir vu les images de la récente attaque de Goma par les M23 et les militaires rwandais. Mère de 8 enfants, cette ancienne chef d'un quartier de Bukavu qui a requis l'anonymat veut épargner le Sud Kivu.
Je vais là pour venger le sang de mes compatriotes congolais qui sont en train de périr dans cette guerre nous imposée par le Rwanda. J'ai 63 ans, je vais me battre, je suis décidé. C'est l'esprit qui se bat, ce n'est pas la force physique.
Ancien leader d'un groupe armé, le député désormais ministre provincial de l'Intérieur, Albert Murulaka Chafokamai, qui a décidé de faire de la sécurité sa priorité. Il lance un message à Kigali et veut rassurer les Congolais.
Que Kagame sache que même s'il décidait de se battre pendant 100 ans, il ne pourrait jamais gagner. Avez-vous déjà vu un chat se battre contre un léopard? N'ayez pas peur.
La période des formations des volontaires reste inconnue. Ces derniers disent vouloir être prêts à temps pour barrer la route au M23. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Au moins 15 morts hier dans le centre et l'est de l'Ukraine. La Russie a lancé une nouvelle série de frappes. Une quarantaine de missiles et plus de 120 drones kamikazes. Les dégâts sont nombreux, notamment sur les infrastructures énergétiques du pays.
Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Les mots de François Bayrou ce matin chez nos confrères de la Tribune dimanche.
Le Premier ministre français veut aller vite et annonce le recours au 49-3 dès demain. Le centriste tente de faire passer en force le projet de loi de finances de 2025 et s'expose donc à la censure. Aurélien de Vernois, ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'on s'attendait à cette annonce du Premier ministre.
En l'absence de majorité en faveur du gouvernement à l'Assemblée, François Bayrou n'a en réalité guère le choix. Le nouveau Front populaire a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre le texte et pas question de laisser son destin dans les mains du Rassemblement national. Le Premier ministre peut en revanche espérer se sortir de la motion de censure qui sera déposée juste après le 49-3. Le RN n'a pas encore fixé sa position, ce sera lundi, et surtout le Parti socialiste est susceptible de vouloir épargner le gouvernement, même si les divisions restent fortes à ce sujet au sein du PS. Dans son interview, François Bayrou semble toutefois confiant, se félicitant du dialogue qu'il a fait naître ces dernières semaines et se projetant sur la suite. Il explique notamment être prêt à modifier à tout moment la trajectoire budgétaire du pays si les prévisions retenues s'avéraient fausses. Et le Premier ministre poursuit son analogie avec l'Himalaya, évoqué en début de mandat. Il y a 8 sommets à gravir, explique-t-il, citant l'éducation, la santé ou l'immigration. Mais le camp de base a été établi avec l'accord sur le budget, poursuit François Bayrou. Attention toutefois au risque d'avalanche lors du vote sur la censure, mercredi ou jeudi.
Aurélien Devernois.
La Turquie va-t-elle bientôt tourner la page de 4 décennies de guerre contre le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan?
Le président Recep Tayyip Erdogan et son allié ultranationaliste ont en tout cas initié il y a 4 mois un processus de négociation. Le but, amener le PKK au désarmement et à la dissolution. Reste toutefois de nombreuses inconnues. Alors forcément, ce processus est accueilli avec prudence chez les Kurdes de Turquie. RFI Ankara, Anand Lower.
Depuis des mois, les autorités turques discutent avec le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, Abdullah Öcalan, et le laissent échanger avec des cadres du parti pro-kurde légal, le DEM. Objectif déclaré, le désarmement du PKK, la fin de 40 ans de guerre avec les combattants kurdes en Turquie, mais aussi dans le nord de l'Irak et de la Syrie. L'échec de tentatives passées, le fait que le pouvoir justifie le processus actuel par des enjeux sécuritaires et non par un effort de démocratisation, les Kurdes de Turquie sont sceptiques, constate Roj Girasun, directeur de l'Institut de recherche et de sondage Ravest, spécialisé dans ce sujet.
Ce qui domine, c'est la prudence et l'inquiétude. Que se passera-t-il si ce processus échoue? Un processus est-il vraiment en cours? Il y a un manque de confiance très clair.
Le scepticisme n'empêche pas l'espoir et le soutien aux efforts de paix, notamment chez les jeunes Kurdes. Roj Girasun.
Toutes nos enquêtes le montrent par rapport aux générations précédentes, les jeunes Kurdes d'aujourd'hui se montrent beaucoup plus prêts au compromis et éloignés de la violence d'une solution armée. C'est un effet de l'urbanisation croissante de la population kurde, de son accès croissant aux classes moyennes, de son intégration croissante à la société en Turquie.
Beaucoup s'attendent à ce qu'Abdullah Öcalan appelle le PKK à abandonner les armes le 15 février, 26e anniversaire de son arrestation. Alors, de Ankara, RFI.
Du sport avant de refermer ce journal avec un exploit hier, celui de Nassourdin Imavov en MMA. Le français est venu à bout d'Israël Adesanya, la légende nigériane de l'UFC. Victoire par chaos technique dès le début de la deuxième reprise à Riyad, Sofiane Amazian.
Les images font déjà le tour du monde. Nassourdin Imavov qui met KO dès la deuxième reprise, une légende de l'UFC, Israël Adesanya, l'un des plus grands champions chez les poids moyens. Pourtant annoncé comme outsider, le français de 28 ans a parfaitement géré son combat, en témoigne sa célébration tout en simplicité.
Je reste moi-même sur le coup, j'avais pas... j'étais moi-même quoi. Et ce que j'ai ressenti, mission accomplie. Et, comme j'ai dit, c'est un combat comme un autre, c'est une victoire et... Tout cette pression sur les épaules, ça y est, c'est fini. Et c'est tout ce que j'ai ressenti. Mais voilà, je me rends compte que j'ai battu une légende. Et je suis très heureux.
Imavov a réussi là où ses compatriotes Cyril Gane et Benoît Saint-Denis ont échoué, marqué l'histoire de leur discipline. Après une année 2024 parfaite, marquée par 3 succès majeurs face à des membres du top 10, la suite se dégage largement pour la nouvelle pépite. Direction le combat pour le titre.
J'ai quasi nettoyé la catégorie en seulement un an. J'ai pris presque tout le monde. Je vais me classer deuxième normalement et la ceinture.
Les perspectives pour Nassourdin Imavov sont nombreuses dans une catégorie qui bouge sans cesse. La ceinture sera remise en jeu dès la semaine prochaine. Le champion sud-africain Dricus du Plessis va affronter l'américain Sean Strickland.
7h13 en temps universel. Voilà pour le journal et je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 20 minutes. Le point sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, où le gouvernement annonce 773 morts et 2880 blessés depuis dimanche dans l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Un chiffre qui ne prend en compte que les personnes prises en charge à l'hôpital et un bilan qui va donc s'alourdir. La Croix-Rouge continue de ramasser les corps dans les rues, vous l'entendrez, à 7h30, temps universel. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche, à la une, Le Monde, face à une nouvelle page de son histoire.
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, cherchaient l'erreur. En fait, il n'y en a pas, nous dit le Nouvel Obs. Le 47e président des États-Unis a rejoint la liste des dirigeants qui veulent renverser l'ordre international, constate Pierre Aski dans son éditorial, et il précise, les États-Unis, la Chine et la Russie, grandes puissances nucléaires, sont déterminés à abattre un ordre mondial dont ils sont censés être les garants en tant que membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les autres membres permanents, la France et le Royaume-Uni, sont bien solitaires pour défendre l'idée du multilatéralisme et celle d'un monde fondé sur le droit et non sur la force. Une inquiétude à laquelle fait écho celle de Marion Van Rentergem dans l'Express. Ça y est, dit-elle, les États-Unis de Trump nous ont quittés. Nous, c'est l'Occident dans sa définition politique culturelle et non géographique. Elle aussi évoque l'attachement à la démocratie libérale libéral, à la primauté du droit sur la force et au multilatéralisme.
Dans ce contexte, la presse s'interroge sur l'avenir de l'Europe.
Ni Poutine, ni Trump, allez l'Europe, lance dans la tribune dimanche François Clémenceau qui s'interroge. Comment l'Europe doit-elle gérer Trump ? Il ne s'agit pas, explique-t-il, d'avoir une position sur l'absence totale de valeurs du monde de Trump, ni de débattre de la cruauté absolue de Poutine. La cohésion des Européens doit se bâtir autour de la défense de ce que nous sommes et du rôle que l'on veut jouer aux yeux du reste du monde. Trump va-t-il nous écraser ? Ajoute Le Point qui se demande pourquoi la France et l'Europe se laissent faire. Le Point qui juge durement le fonctionnement de l'Union Européenne et ses 27 autorités financières différentes, 27 systèmes de défense, 27 droits du travail. Le prix Nobel d'économie Jean Tirole n'est pas plus optimiste. Interrogé par Le Point, il estime que l'Europe court le risque de devenir un acteur secondaire, voire de sombrer dans un rôle de figurant. Deux options s'ouvrent à nous, ajoute-t-il, réagir ou subir, que ce soit face à la Russie, dans les négociations sur le climat ou pour se défendre contre le protectionnisme des autres. L'Europe devrait, estime le prix Nobel, jouer un rôle majeur. Ne pas agir serait dramatique.
Dans la presse hebdomadaire également, un reportage en Ukraine sur des combattants particulièrement motivés.
Très motivés, malgré leur âge, car ces combattants qui se font appeler les loups des steppes sont des seniors volontaires. Les retraités montent au front, s'exclame Le Point. Certes, ils ne sont pas très nombreux, 16 pour le moment, mais les demandes pour rejoindre le groupe affluent, explique l'hebdomadaire qui dresse leur portrait. Théoriquement inaptes à l'armée en raison de leur âge avancé ou d'un handicap, mais ne pouvant se résoudre à regarder leur pays se faire détruire, ces hommes ont rejoint l'unité d'Alexandre, un blessé de guerre de 67 ans qui préfère que les vieux se sacrifient plutôt que les jeunes qui pourraient être ses petits-enfants. Alexandre explique ainsi, si quelqu'un de plus de 60 ans veut se battre, pourquoi ne pas l'accepter ? Il ne peut sans doute pas tout faire. Fantassin, c'est difficile, mais officier ou affecté à des tâches spécifiques, c'est possible. Il faut préserver les jeunes. Les Européens, demandent-ils, accepteraient-ils d'envoyer leurs enfants à la guerre ? Alexandre, qui avec ses collègues n'hésite pas à mettre la main à la pâte devant l'envoyé spécial du Point, ils s'en vont avec un van chargé de roquettes tirées avec succès sur une position russe, signe que la guerre ne leur fait pas peur.
Enfin, Catherine, nous ouvrons le magazine Society.
Pour évoquer le phénomène de l'afterwork, l'après-travail, cet événement officieux, nous dit Society, qui parle d'un sas de décompression, fédérateur des équipes, devenu un incontournable des entreprises, et qui nous offre un rapide tour du monde sur la question. Le cas le plus connu est celui du Royaume-Uni, où dès 19h, les pubs grouillent d'employés de bureau et de patrons aux cravates flottantes et cols de chemise déboutonnés. Au Japon, rendez-vous dans les izakaya, sorte de bar à tapas, pour partager une bière et un verre de saké. L'afterwork au Japon est, nous dit Society, un moment crucial de décompression. Enfin, les pays du nord de l'Europe offrent une version encore plus décontractée. Faire des affaires, nu comme un verre sur un banc de sauna avec son ou sa chef n'a rien de surprenant, explique Society. Encore faut-il ne pas avoir froid aux yeux.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche et cette semaine, nous allons nous intéresser à Emmanuel Macron qui, depuis le début de l'année, est beaucoup plus présent dans le paysage. Depuis la dissolution, le président ne tient plus les manettes de la politique gouvernementale, mais il n'a visiblement pas renoncé à se faire entendre. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
On a l'impression qu'Emmanuel Macron essaie de se refaire une place dans le débat national.
C'est exactement ça. Le président cherche comment retrouver un peu d'influence après une période durant laquelle il a été forcé de prendre de la distance. Son entourage a même théorisé cette posture avec une formule. Le président préside et le gouvernement gouverne. Emmanuel Macron a changé de stratégie. Son objectif est aujourd'hui d'essayer de se rappeler au bon souvenir des Français. Et il le fait de manière parfois un peu débridée, allant même jusqu'à critiquer la politique gouvernementale. Par exemple, quand les sportifs français ont protesté contre les coupes budgétaires dans leur secteur, dans une tribune, Emmanuel Macron leur a apporté son soutien. Première pique contre contre les choix du Premier ministre, suivi quelques jours plus tard par une autre saillie. En déplacement dans le nord de la France, il a défendu sa politique pro-entreprise qui risque d'être mise à mal par l'augmentation de la fiscalité envisagée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses et combler les déficits.
On a aussi vu Emmanuel Macron sur TikTok.
Oui, dans une vidéo publiée pour répondre à un influenceur qui se plaignait d'avoir été verbalisé pour avoir payé au péage avec son téléphone. Une préoccupation pas très jupitérienne, portée par un président devenu porte-parole des mécontents, sans filtre, peut-être un peu trop connecté. Cet épisode insolite a étonné même dans son camp. Joker a répondu à un macroniste de la première heure, sollicité pour réagir sur cette vidéo, qui s'inscrit en fait dans une démarche de rapprochement avec les Français, illustrée encore cette semaine par une visite surprise et sans la presse dans une petite ville de l'Aisne, pour aller à la rencontre des habitants autour d'un café. Dans l'entourage du président, on emballe tout ça dans un récit. Emmanuel Macron aurait la volonté de s'occuper de plus en plus du quotidien de ses compatriotes, loin du protocole.
Et est-ce que cette stratégie fonctionne ?
Pas pour le moment, la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'en finit pas de chuter. Mal engagé en 2022 après des législatives qui ne lui avaient permis d'obtenir qu'une majorité relative, son deuxième quinquennat a complètement dérapé avec la dissolution que les Français lui reprochent. Mais Emmanuel Macron cherche encore et toujours comment remonter la pente.
Valérie Gasse, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et dans Chemin d'écriture cette semaine, une figure légendaire des lettres mauriciennes. Poète, écrivain, peintre, né en 1902, disparu en 81, Malcolm de Chazal est l'auteur d'une œuvre prolifique, à mi-chemin entre poésie, philosophie et économie politique. La vie filtrée, Petrus Mock ou encore Sens plastique sont quelques-uns de ses ouvrages les plus connus. Et un ouvrage posthume vient s'ajouter à cette liste, un livre autobiographique intitulé « Demi-confidence ». À l'occasion de sa sortie, Tirthankar Chanda a rencontré la romancière Ananda Devi, qui voue une admiration sans borne à cet auteur qu'elle a découvert à l'âge de 17 ans.
Bonjour Ananda Devi, vous venez de lire Demi-confidence, le nouvel opus de Malcolm de Chazal, un auteur qui n'a aucun secret pour vous. Que raconte ce livre ?
C'est comme une espèce de confession d'outre-tombe où Malcolm de Chazal revient sur son parcours, sur son rapport au monde, aux êtres, comment il s'est senti incompris, rejeté par tout le monde et en même temps capable de rester en contact avec ce qu'il appelle la magie innée du poète. Ça m'a fait penser à ma première lecture de Sens plastique, où j'étais absolument époustouflée et aussi troublée par cette manière d'écrire particulière à lui. Je dirais écriture philosophique et poétique, mais qui met au défi le lecteur de comprendre à sa manière ce qu'il est en train de dire.
Dans les années 1950-1960, Malcolm de Chazal était très connu. Découverte par les surréalistes, son œuvre a été publiée aux éditions Gallimard. Ce n'est pas rien. Comment s'explique alors qu'elle soit aujourd'hui tombée dans l'oubli ?
Je crois parce que lui était, enfin il le dit parfois lui-même, une sorte de génie incompris. Même s'il a été découvert par les surréalistes et publié chez Gallimard, mais après on l'a vite oublié. J'ai l'impression que cette disparition est un peu liée au fait qu'il appartenait à une petite île très éloignée du centre littéraire français. Et en même temps, il avait besoin de l'île pour écrire, c'est ce qu'il dit dans ce livre. Il avait besoin de la recréer, d'avoir cette géographie mythique pour ancrer son écriture.
Son œuvre est réputée inclassable, difficile à déchiffrer.
Je crois que ce qui est très particulier, c'est cette construction d'un mythe qui commence avec Sens plastique, où il raconte qu'il se promenait dans le jardin botanique de Kirkpip, qui est la ville où j'ai grandi, et je connais très bien le jardin botanique, et il dit qu'il a eu une sorte d'épiphanie où il a vu que la fleur le regardait. Et ça déclenche toute une réflexion sur notre rapport au vivant. Après, avec Petrus Mock, il va amplifier cette mythologie de l'île. Il croyait aussi dans l'existence de la Lémurie, c'est-à-dire un grand continent englouti un peu comme l'Atlantide. Nos îles n'étaient pas que des îles, mais des continents où il y avait peut-être eu une race d'êtres humains plus grands que ce que nous sommes devenus. Donc, il voulait créer une écriture qui englobait un tout, qui englobait le monde, qui englobait le rapport de l'homme au monde, à lui-même, à la littérature. Et il avait une sorte d'impulsion à la fois mystique et poétique.
J'ai enfanté l'île Maurice, écrit Chazal. C'est quelque chose que vous aussi, vous auriez pu écrire, non, Ananda Devi?
Le fait que cette île m'a tellement portée à travers mon écriture et que je l'ai portée en moi et que finalement c'est vrai que ça devient une géographie spirituelle, je trouve ça très beau comme message. En fait, on réinvente nos propres pays à travers nos livres. C'est le message de Malcolm de Chazal.
Tirthan Karchanda et l'autrice Ananda Devi, Demi-confidence, ouvrage posthume du mauricien Malcolm de Chazal, est publié aux éditions Alia. Et bientôt 7h30 en temps universel, un nouveau journal Afrique dans moins de 5 minutes. D'abord notre reportage culture avec un film sorti cette semaine en France, La mer et ses vagues. Premier long métrage du duo franco-libanais Liana et Renaud. On y suit la traversée d'une ville par un musicien et une toute jeune fille. Ils doivent rencontrer des passeurs pour franchir la Méditerranée. La ville portuaire qu'ils traversent n'est pas nommée, mais elle a tous les traits de Beyrouth. Et Muriel Mahalouf nous raconte la suite.
Ce qui nous intéressait, c'était le rapport que pouvaient avoir des personnes qui traversaient la ville.
Renaud, co-réalisateur de La mer et ses vagues.
Et comment est-ce que des étrangers sont accueillis ou pas?
Les deux étrangers, donc, dont on reconnaît l'accent syrien, traversent une ville fantomatique, loin du Beyrouth grouillant de vie qu'on connaît. Ils croisent un milicien qui vérifie leurs papiers, des fêtards en voiture qui les rabrouent, un marchand ambulant de café, autant de personnages hostiles dans une ville peu accueillante. Liana, co-réalisatrice.
Cette façon dont on met en scène Beyrouth vide, malheureusement, elle fait écho avec le Beyrouth qu'on peut retrouver aujourd'hui en 2024. La ville a subi de telles vagues d'immigration, plus une forme de flétrissement profond, et fait que, crise après crise, on a l'impression qu'on ne finit pas de l'achever, où il y a une forme de vide aujourd'hui.
Un vide que tente en vain de combler une marchande de loterie, vendant la chance à une population désespérée et incarnée par la truculente Hanan Hajali. Et puis il y a le gardien du phare, interprété par Roger Assaf, à la présence merveilleuse, gardien de la lumière dans Beyrouth où l'électricité est précieuse et déficiente. Il semble veiller sur le souvenir d'une ville.
Beyrouth, c'est une de ces grandes capitale dans l'histoire du monde qui a représenté une utopie, qui n'appartient à aucune philosophie, à aucune religion, à aucune idée, qui est le lieu où tout se rencontre. Je me rappelle du quartier juif de Wadi Abou Jmil, quartier arménien, le quartier musulman, chrétien, tout cela se rencontre à Beyrouth sans qu'il n'y ait de conflit. Au contraire, cette ville extraordinaire n'existe plus. Elle a été détruite en partie par la guerre civile, ensuite par les agressions israéliennes multipliées, par ceux qui ont détruit aussi les immeubles pour construire une Beyrouth moderne. Tout ça s'est accumulé, a fait de Beyrouth une ville martyrisée dont il ne reste non pas la mémoire mais le souvenir.
La mer et ses vagues, tournée en argentique, nous transporte dans un monde perdu où la vie surgit puissante. Dans les traces d'une pierre, d'un bâtiment, d'une rue, et Beyrouth devient la métaphore d'un monde qui refuse de décliner.
Muriel Mahalouf pour notre reportage culture et dans une minute, le journal Afrique sur RFI. À tout de suite.
Le goût du monde.
Clémence de Navy.
On sert dans ce restaurant des plats cuisinés avec des invendus alimentaires. Vraiment ? Carrément ? Les ingrédients sont invendus parce que bientôt périmés ou le packaging a changé ? C'est ça le gaspillage, c'est dire si on marche sur la tête. Alors, on cuisine simple, bon, efficace. Un couscous, ça vous dit ? Tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.
Le Club RFI, Éric Amien.
Cette semaine, le Club RFI Boutembo, en République démocratique du Congo, présente son initiative réalisée à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée le 24 janvier dernier. Le club a organisé une rencontre autour du thème « Intelligence artificielle et éducation ».
Le Club RFI, Éric Amien.
Tout à l'heure, à partir de 19h41.
RFI.